Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamal.
L'After Foot, 23h avec Thibaut Leplat, Oussem Le Saïef et Daniel Riolo. Et nous sommes toujours avec Stéphane, membre d'un groupe de supporters de l'Olympique Lyonnais. Il était à Charletti vendredi soir. Stéphane, tu es bien avec nous. Messieurs, j'avais déjà une question à poser. Daniel, Thibaut, Oussem.
En fait, moi, la question, j'écoute depuis tout à l'heure. C'est Stéphane son prénom ?
Stéphane.
Je suis désolé, mais je comprends pas l'utilité du témoignage, en fait. Je comprends pas ce qu'on est en train d'écouter, en fait. Je sais pas de quoi on parle.
Daniel, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas donné la parole à un supporter lyonnais encarté, comme on le dit, qui fait partie d'un groupe d'ultra lyonnais.
Ouais.
Et qui était à Charletti. On le fait ce soir, parce qu'il y a un droit de réponse à donner.
Oui,
c'est aussi notre
travail. Droit de réponse par rapport à quoi, en fait? Parce qu'il doit, droit de réponse par rapport à...
Par rapport aux déclarations de Pierre Ferracci, qu'on a beaucoup entendu sur RMC, il faut le dire.
Mais quoi?
Dès vendredi soir.
Mais alors, par rapport justement. Qu'est-ce que le but du témoignage?
Stéphane,
c'est de faire
tu peux répondre à Daniel.
Je m'excuse, Daniel, effectivement, parce que j'ai omis un détail important qui diffère, mon témoignage diffère des autres sans vouloir faire offense aux autres. C'est qu'aujourd'hui, voilà, moi, en étant au stade et en étant sur place, j'ai des preuves photos et vidéos que notamment voilà, je diffuserai demain via un de vos confrères sur Lyon. Le but étant de remettre l'église au milieu du village, de donner chacun les responsabilités, c'est-à-dire que les Lyonnais, il y en a qui méritent des sanctions, ça, il n'y a pas de problème, mais les Parisiens également. Le but étant, traditionnellement, voilà, de vous parler de tout ce qui s'est passé et de ce que Pierre Ferracci a expliqué, puisqu'aujourd'hui, quand il explique je rebondis par rapport à ce que tu disais, le 19 décembre, deuxième déclaration, les fous furieux n'auraient jamais dû quitter la gare de Lyon. Dès la gare de Lyon, des fumigènes, ont explosé. La sortie des trains a été catastrophique. Donc, comme vous l'expliquiez, j'étais du voyage. J'ai les preuves vidéo du cortège, entre guillemets, si on peut appeler ça un cortège, en sortant du quai. La police, comme je vous disais, était au courant de la venue des supporters. C'était dealé, entre guillemets, avec eux de dire « on vous encadre ». Tout s'est très bien passé. J'ai la vidéo, c'est pacifique. On voit même les leaders des groupes devant discuter avec la police. Il y a des sourires, il n'y a aucune tension. Les fumigènes, pour information, M. Ferracci, si vous m'écoutez, ça n'explose pas. La seule chose que j'ai vue, en toute transparence, c'est effectivement un pot de fumée rouge, aux couleurs de notre club, allumé. Un pot de fumée, voilà, c'est festif. J'appelle M. Ferracci, justement, à se rapprocher de la SNCF, si tant est qu'il y ait des vidéos qui prouvent ces faits, auquel cas, je serais ravi, et je m'excuserai auprès de lui, et je l'inviterai carrément à déjeuner sur Lyon, dans notre belle maison chez Bocuse, par exemple, et de la même manière au stade, puisqu'il est garant de la sécurité du stade, il a des vidéos, j'imagine. Son stade n'est pas si obsolète que ça, comme il veut le faire entendre, donc charge à lui de diffuser ces éléments, puisqu'aujourd'hui, il dit que, enfin, le samedi 18 décembre, il est un peu...
Oui.
Changé d'avis depuis. Il dit qu'il y avait des barres de fer et des chaînes de vélo côté lyonnais et que des familles ont été agressées et qu'il n'y avait pas de supporters. Donc aujourd'hui, on est mardi. Je termine juste rapidement avec ça, excusez-moi. Comme par hasard, son discours s'est un petit peu atténué, même beaucoup. Certains médias comme Hugo Guillemet dans l'équipe, pour le citer, voilà, on fait tout de suite un étalage de faits le samedi. Étrangement, depuis lundi, mardi, c'est plus tout à fait la même histoire. Preuve en est, on est là ce soir pour en parler.
Ok, Stéphane. Le message est passé. Thibault Leplat avait une question à toucher.
J'ai une question pour toi, Stéphane. Alors, les déclarations du président du PFC, les différentes couvertures médiatiques qu'il y a eu sur ces événements-là, que ce soit cela, mais ce qui s'est passé dans d'autres stades, à Angers, à Saint-Étienne,
à Nice,
etc., depuis début de la rentrée, font état d'une certaine inquiétude dans l'opinion à l'égard de ces événements violents. Qu'on ne comprend pas forcément quand on voit ça de l'extérieur. Qu'est-ce que vous, comment vous expliquez ça? Comment vous recevez cette inquiétude qui monte à l'égard de ces groupes-là et de ces événements-là? Comment tu l'expliques ça? Est-ce que c'est de la manipulation médiatique ou est-ce qu'il y a une réalité qui, vous-même, sur le terrain, vous inquiète?
Non, les faits sont là, hein. Clairement, l'inquiétude, elle est légitime, puisque comme vous le soulignez très justement, depuis le mois d'août, alors peut-être parce qu'on s'était habitué pendant 2 ans à pas vivre ce genre d'événement, mais on va pas se mentir, il y a plus d'événements. Alors, un des facteurs, je pense, parce que j'en ai discuté avec un ami qui travaille dans la sécurité, ils expliquent que les agences de sécurité ont du mal à embaucher suite à la crise au Covid, puisque ça reste des postes, entre guillemets, difficiles à trouver, c'est souvent de l'intermittence. on va pas se mentir, c'est pas des salaires mirobolants. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont sur place. Il y a peut-être du sous-effectif, et effectivement. En l'occurrence, voilà, je pense que c'est une des choses qui peut expliquer.
Ok, Stéphane, mais depuis l'intérieur, parce que toi, tu fais partie d'un groupe important. Vous avez des services d'ordre, vous avez des gens que vous connaissez. Alors, vous avez des. Moi, je veux bien que ce soit une affaire. Partiellement, effectivement, on peut essayer de l'expliquer un peu par ça, on peut trouver d'autres motifs, sauf que ce qui est en cause là, c'est pas l'événement, la question du salaire des stadiers ou des installations, c'est d'une manière générale.
C'est du comportement de certains supporters.
Et pourquoi on va continuer à débattre mille ans sur le fait que la sécurité n'était pas à la hauteur,
non, justement,
sur
Daniel.
Le fait qu'on n'est pas fouillé, sur le fait que ceci, cela,
Daniel.
J'en ai rien à foutre, moi, de ça. Moi, je demande comment c'est possible que des mecs dans un stade foutent un bordel pareil,
on allait
taper des femmes et des enfants.
Daniel.
On en cherche ensuite toutes les excuses du monde. J'en ai rien à carrer, moi, de ça, moi. Ça fait 40 ans que j'entends ça.
Oui.
Moi, j'en ai marre, moi, de ces droits de réponse, droits de parole, et compagnie.
Non,
moi, je demande pourquoi les mecs arrivent dans un stade et foutent la merde, c'est tout. Est-ce que, quel qu'il soit, moi, je veux que les 7 ou 10 Parisiens qui ont foutu la merde, on les revoit jamais dans un stade, et tous les Lyonnais qui ont répliqué, on les voit plus jamais dans un stade. Basta! J'en ai rien à foutre des excuses, moi.
Est-ce que c'est un discours que vous tenez entre vous également, Stéphane?
Mais non, ils
vous
le savent pas!
Est-ce que,
ils vont dire, les flics ont pas bien bossé, il y avait pas assez de stadiers, il y avait pas ceci, il y avait pas cela.
Stéphane, malheureusement.
Il y avait pas assez de nounous pour les petits enfants.
Oui, Stéphane, malheureusement, ce que dit.
Ça fait 10 minutes que je laisse parler tout le monde.
Stéphane, excuse-moi. Malheureusement, ce que dit Daniel est assez juste. Effectivement, on trouve des raisons pour expliquer pourquoi il y a autant de débordements dans les stades, dans les Ligue 1. La raison principale, ça reste le comportement de certains supporters.
Bien sûr.
Est-ce qu'entre vous, vous dites, on va arrêter, on se réunit. Si on est provoqué, on ne réagit pas. Simplement ça. Expliquez-nous.
Alors, c'est inexcusable. Moi, ce que je veux juste souligner, pour répondre à Daniel, c'est que malheureusement, le stade est une composante de la société. Donc, on y retrouve des gens bien, des gens mauvais. De la même manière, dans des manifestations, on va avoir des black blocs qui vont tout chasser. Et derrière, c'est les gilets jaunes, par exemple, qui vont pâtir.
Certes, mais ils ont des revendications, les gilets jaunes. Là, on a de la violence gratuite, qu'il n'y a pas de revendication, si ce n'est des logiques tribales. C'est ça le problème.
Je veux juste souligner, pour défendre les groupes de supporters, c'est que il y a, alors si on prend les exemples, j'ai les chiffres en tête, les Bad Guns par exemple, c'est près de 6 000 adhérents.
Lyon, c'est pas une revendication, 6 000 adhérents,
attendez, je finis. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas, on a beau avoir 1300 adhérents, aujourd'hui c'est 1300 adhérents par exemple, ou 500 adhérents qui achètent une carte de membre à 5, 10, 15 euros. Aujourd'hui, on peut pas contrôler les personnes qui viennent chez nous. Quand je dis chez nous, c'est tous les groupes de supporters.
Mais est-ce qu'au préalable, quand ils viennent chez vous, vous leur expliquez des règles au moins?
C'est pas mon rôle, hein,
tu en fais partie, donc tu parles avec tes camarades. Mmh. La question c'est, est-ce que vous leur demandez une attitude correcte? Est-ce qu'il y a une charte?
Bien sûr.
Est-ce
qu'on dit,
les gars, le premier qui sort? Qu'est-ce que tu as dit, toi, à tes camarades qui se sont battus? Peut-être que tu t'es battu toi aussi à Charletti vendredi soir.
J'aimerais bien le savoir, est-ce qu'il peut le dire, ça, déjà?
Alors, non, je ne me suis pas battu. J'ai tout fait pour rester le plus proche possible de la pelouse, puisque, comme vous le savez, la police a utilisé de gaz à lacrymogène. Donc, non, j'ai fait en sorte de pas me mêler à ça, puisque c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Et j'ai suivi l'appel au calme des capots. Ça, c'est pareil. Il y a des vidéos qui tournent de plus en plus sur les réseaux, mais que j'ai sur mon téléphone, où les capots des groupes de supporters présents ont bien massivement appelé avec des mégaphones. Donc, c'est bien entendu, en temps réel, à dire à tout le monde de redescendre directement en tribune. Et c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'ils ont un travail entre guillemets ingrat, c'est qu'ils doivent filtrer constamment. Et c'est pour ça qu'en début de saison, moi, typiquement, je suis allé chercher ma carte.
Service d'ordre,
au mois
d'août. Comme dans n'importe quelle manif, des syndicats, t'as un service d'ordre désigné auprès de la préfecture qui a la charge des groupes.
Exactement.
Qui maîtrise les mouvements sociaux. Là, le problème, c'est qu'on a des gens qui sont devenus incontrôlables et on a le droit de perdre le contrôle de sa tribune, on a le droit de perdre le contrôle de son groupe. C'est pas grave. Si c'est grave, mais si on peut arriver à faire quelque chose. Le problème, c'est que quand on dit d'un côté on a le contrôle et en même temps on l'a pas, ou c'est la faute du salaire des stadiers, ou qu'il n'y a pas assez de stewards, et ou que le plexiglas n'est pas assez haut, vous comprenez que c'est des arguments qui commencent à devenir inaudibles là.
Ce que je souligne juste, c'est que des situations comme ça, j'en ai vécu plusieurs en parquage, et ça n'est pas allé plus loin parce qu'il y avait, entre guillemets, ce système de sécu en place. Je cautionne en aucun cas.
Mais Stéphane, c'est pas parce que tu l'as vécu que c'est normal.
On s'en fout, ça.
À Péta ou Schnock, chez Duschmurz ou chez machin, je m'en fous.
Tu vois, Stéphane, tout à l'heure,
on veut que ça s'arrête.
Tout
à l'heure. Tu nous,
que
tu,
ça s'arrête tu, à Lyon, que ça s'arrête à Marseille, à Nantes, n'importe où, je m'en fous. Ouais, on veut plus, c'est tolérance zéro là-dessus. Basta. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de machin, il m'a provoqué. Et machin, il a jeté la bouteille, mais elle n'avait pas le bouchon. Et le joueur, il a peut-être fait du chiquet. Et le machin, il a fait ceci, cela. On n'en veut plus, c'est tout. Il n'y a rien qui justifie un acte violent dans un stade. Et même ailleurs, d'ailleurs.
Et qu'est-ce que j'ai souligné, Daniel, depuis tout à l'heure? Vous et vos confrères, toi et tes confrères.
Je le dis pas directement à toi, Stéphane. Voilà, je le dis en général. Tu comprends?
Moi, je veux pas faire l'avocat du diable. Justement, je suis là pour exprimer mes états d'âme parce qu'au final, ma soirée a été gâchée. Comme pour Lyon-Marseille, où à cause d'un connard, et je vais employer le mot connard, on se retrouve privé d'un match peut-être le plus important de la saison. Pour au final, une personne qui n'est même pas abonnée. Ça m'a encore plus foutu en rogne, puisque les groupes de supporters ont été une nouvelle fois visés. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est assez pénible d'être mis en difficulté par des gens qui, très souvent, ne sont pas abonnés ou pas affiliés à un groupe. Et c'est dur aujourd'hui de contenir une tribune. Je prends l'exemple du virage dans lequel je suis, donc le virage sud. Il y a quatre associations différentes. Ça doit représenter à peu près 2000 personnes, pardon, en tout. La tribune, ne serait-ce qu'inférieure intermédiaire, elle fait 6000 places, plus le supérieur. Donc aujourd'hui, en fait, malheureusement, les groupes de supporters ont le souci de pas pouvoir tout contrôler. Il y a des composantes comme dans la société, des gens qui viennent pour s'amuser, des gens qui viennent pour boire, des gens qui viennent pour malheureusement se battre entre eux.
Mais il y a beaucoup d'endroits dans la société, pardon, sur cette histoire de reflet de la société qui revient sans cesse. Oui, si vous voulez, il y a un reflet, il y a un miroir, si vous voulez, on peut appeler ça comme ça. Sauf que dans la société, on sait parfaitement gérer ça. Dans les aéroports, il n'y a pas de fumigène. Dans beaucoup de lieux publics, il n'y a pas de fumigène. Il n'y a pas de bombes agricoles. On ne va pas je ne sais pas, il y a certains religieux qui vont dans les pèlerinages dans le sud. On n'y va pas avec des bombes agricoles. On n'a pas besoin de CRS. Donc il y a un moment aussi, il y a quelque chose qui, dans le cadre de la culture ultra, ce que moi je disais hier soir, j'ai bien compris qu'il y a une distinction entre ultra et ultra-hooligan. Je suis suffisamment dans le football pour quand même comprendre la différence. Je remercie à ceux qui m'accusaient de ne pas comprendre ça. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il y a une porosité.
Ah, les leçons qu'on reçoit dans ces cas-là, si on ne connaît pas la question.
Bien sûr.
Mon Dieu.
Simplement, il y a une porosité dont tu témoignes très bien, Stéphane, qui est très concrète, qui est de dire, à l'intérieur d'un groupe, même à l'intérieur d'un déplacement, on ne sait pas, ou alors on le sait mais on veut pas le dire, on le sait mais on a peur. On emmène avec nous des gens dont on ne maîtrise absolument pas les comportements. Et c'est ça la porosité. C'est pas tout le monde est fasciste, tout le monde est d'extrême gauche. C'est pas ça. La porosité, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens dont on contrôle absolument pas les comportements et dont on se retrouve à être responsable des actes qu'ils ont commis, alors même qu'on est en désaccord profond avec ce qu'ils ont fait. Et ça s'appelle la responsabilité. Quand on se déplace comme groupe de supporters, on est responsable. Non seulement de son propre comportement, mais du comportement du groupe. Or là, ce qui se passe, c'est que effectivement, certains, beaucoup, vont être punis à tort ou vivent ça comme une injustice. Oui, c'est vrai. Simplement, il faut que chacun soit responsable aussi des dérives qui existent et des dérives
au sein de son propre groupe également.
Justement, nous, la difficulté, enfin que je vois quand on va au stade avec mes amis, c'est qu'on voit le groupe s'efforce de faire du travail. Au mois d'août, je vais chercher ma carte, on m'a remis un petit livret pour par rapport au la mentalité du groupe, le comportement anti-violence, anti-politique, voilà, qu'on est au stade pour l'Olympique Lyonnais pour nos couleurs. Aujourd'hui, c'est là où c'est dur parce que il y a des amalgames qui sont faits. Alors, c'est vérifié, hein. Il y a des gens qui foutent la merde. Il peut y arriver qu'il y ait des gens qui foutent la merde et qui appartiennent à un groupe. Aujourd'hui, nous, là où on est sur le qui-vive, c'est demain, la personne, tant qu'elle n'a pas fait de délit et qu'on a la preuve, on ne peut pas refuser, entre guillemets, légalement une adhésion. Donc aujourd'hui, si l'Olympique Lyonnais dit au groupe de supporters, ben voilà, telle personne elle était déjà interdite de stade ou elle a fait un acte inconcevable, j'imagine que les groupes prendraient les dispositions pour ne pas l'accepter. De la même manière que quand quelqu'un, et ça je l'ai déjà entendu, je l'ai déjà compris, quand il y a eu des actes, les groupes ont déchiré les cartes. Le problème derrière, c'est que nous, notre tribune, vu qu'elle est cosmopolite dans le sens où tout le monde peut venir, tous les abonnements ne sont pas pris à l'année, un supporter qui se fait virer d'un groupe, finalement, il peut acheter sa place au match à un autre nom, puisqu'on vérifie jamais les noms, quand je dis on, les clubs, ou un abonnement simplement à l'année plus cher.
Avant de te libérer, une dernière question qu'on se pose, et il y a beaucoup de réactions sur notre studio, simplement, pourquoi tu voulais rester anonyme ce soir?
Pourquoi je voulais rester anonyme? Parce que justement, je suis, entre guillemets, qu'un membre d'un groupe de supporters, que des groupes, il y en a plus de 13 de l'Olympique Lyonnais, donc je veux pas mettre en porte-à-faux. Tout le monde n'a pas la même pensée. Tous les groupes n'ont pas la même pensée.
Moi, qu'est-ce que tu risques, en fait?
Malheureusement, tu ne représentes pas grand monde et grand chose, Stéphane, si ce n'est ta petite personne, et on est très heureux de t'entendre. Il n'y a aucun problème. Dans l'after, tout le monde vient. Mais tu ne parles au nom de personne, finalement.
Non, je parle à mon nom en tant que membre du groupe de supporters.
D'accord. Voilà. Après, il ne faudra pas venir se plaindre quand on prenne des mesures collectives. Hein.
Non, non, mais ce que je veux juste souligner, on terminait, on parlait d'amalgame tout à l'heure, notamment Pierre Ferracci qui soulignait différentes choses. Aujourd'hui, quand il dit qu'il veut dissoudre les groupes et qu'il porte plainte contre l'an 1950 et les Bad Guns, j'ai vu un cas très concret, il n'y a pas plus tard qu'à une heure, de Benjamin Mendy à Manchester City, qui est jugé pour agression et viol. Aujourd'hui, il a l'étiquette Manchester City, c'est un salarié du club. Est-ce que aujourd'hui, Pierre Ferracci serait content, si jamais, et je ne le souhaite pas, un de leurs joueurs est pris dans une histoire d'agression, de viol.
Je t'arrête tout de suite, il a été licencié de Manchester City. Il n'a plus de contrat de travail avec City, il a été licencié immédiatement.
Je sais bien, mais est-ce qu'il voudrait, enfin, est-ce que tout le monde pense que Manchester City est un club de violeurs ou d'agresseurs? De la même manière, si ça arrive au Paris FC, il ne serait pas forcément heureux de savoir que tout le club du Paris FC est vu comme. Eh ben moi, c'est un peu la même chose que je souhaite pour les groupes, c'est qu'ils ne soient pas vus comme ça. D'autant plus que
En fait, vous vous trompez quand vous croyez bêtement, pardonne-moi, qu'on fait un amalgame général. Ce qu'on demande clairement,
c'est que les auteurs de ces actes-là ne soient plus là.
C'est juste que les mecs ne remettent plus les pieds dans un stade. Je ne demande pas, j'ai jamais demandé de huis clos. J'ai pas demandé que tous les groupes soient dissous. Je veux que les mecs soient identifiés et virés comme les 10 ou 20 parisiens qui sont venus pour foutre la merde. C'est simple. Les Lyonnais, vous êtes dans. Alors, je sais que le contexte est compliqué pour vous en ce moment, mais ne faites pas dans une persécution exagérée parce que au fond, c'est pas ce qu'on dit si vous écoutez bien. Que ce soit dur pour le club en ce moment, ok. Et j'aimerais aller plus loin, mais tu peux rester avec nous pour le débat. Toko Ekambi a soulevé, selon moi, une des questions qui est importante dans le débat dont on n'a pas encore parlé. Toko Ekambi, il a dit si on fait match perdu pour l'OL, donc nous les joueurs qui n'y sommes pour rien, le match a été arrêté, ça ne nous regarde pas, on est éliminé de la Coupe de France. Et il y a une forme d'injustice sportive. Et évidemment, on comprend ce que dit Karl Toko Ekambi. Mmh. Allons plus loin. Et même les autres supporters lyonnais dont l'équipe va être éliminée de la Coupe de France. Les supporters, très souvent, les associations de supporters, les groupes, les ultras, tous, disent appartenir à la famille d'un club, veulent qu'on prenne en compte leurs décisions, leurs opinions, que ce soit directement ou indirectement à travers des banderoles. On dit souvent qu'ils sont un peu comme les syndicats de l'entreprise football. Soit on dit qu'ils appartiennent quelque part à la vie du club, auquel cas le club est responsable de leurs actes et s'ils font l'interruption d'un match à domicile ou à l'extérieur, eh ben c'est tout le club qui est coupable, toute l'entreprise est coupable, auquel cas c'est match perdu. Soit ils ne font pas partie de l'histoire et de la vie du club au quotidien et effectivement c'est un fait de délinquance, mais alors plus jamais ils ne viennent ouvrir leur gueule sur quoi que ce soit qui se passe dans le club. Et le club ne communique plus jamais avec eux, n'échange plus avec eux comme ils ont l'habitude de faire. De deux choses l'une, à un moment il faudra choisir. Si les assos parlent avec le club, se mettent d'accord pour venir au stade dans la journée, préparer des tifos, faire partie de la vie du club, qu'on écoute leurs opinions. Nous, c'est l'idée qu'on a toujours défendue dans l'after. C'est que on est bien content de voir les animations, parce que ça fait partie du business même, de l'économie d'un club, les supporters. Ils consomment les produits du club, ils participent à la vie économique du club, l'aura d'un...
Ils animent le stade.
Oui, ce que j'ai dit. Même la valeur parfois d'un club peut être augmentée parce que mais des investisseurs, quand ils viennent dans un club, ils disent vous avez un public, c'est un potentiel d'achat, ils animent bien le stade, ce qui fait que ça crée une animation qui peut attirer un autre public. Donc, ils sont dans la vie c'est et je crois que les supporters très souvent aiment ça.
C'est un problème politique, tu le dis.
Dans ce cas-là, si on considère ça, et j'ai envie qu'on considère ça, Lyon n'a pas été foutu de gérer un déplacement, n'a pas été foutu de mettre des stadiers pour accompagner le parkage. Lyon est coupable à 100%. Lyon est éliminé de la Coupe de France.
Alors, je croyais que justement, c'était pas le débat, les stadiers. Parce que justement, quand.
Le stadier, ils appartiennent à l'entreprise, ils sont payés par le club.
Oui, mais les strikers, quand ils rentrent sur la pelouse, quelle est la règle pour les clubs? Quand un striker rentre tout nu, ou comme les Dalton sur la pelouse, c'est le club qui accueille le match, qui est pénalement responsable et qui prend une amende. Mm-hmm. S'il ne prend pas une amende, c'est qu'il porte plainte contre la personne qu'ils ont attrapée. C'est souvent le cas, même si quelquefois c'est compliqué, mais ils arrivent à l'attraper. C'est le club qui est responsable. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a des torts, il y a un contingent de supporters lyonnais qui va, et ça la police et le club, enfin les clubs vont se charger entre guillemets de leur cas. Mais à côté de ça, les images elles sont très parlantes C'est-à-dire qu'il n'y a pas un stadier en tribune, c'est le stade qui accueille. Et ça, 250 stadiers, quand il le met en avant, c'est pas normal. Quand il dit que la fouille a été bonne.
Oui, mais dans ces cas-là, Stéphane, c'est pas normal d'avoir 14 stadiers pour 600 supporters.
Bon, allez, messieurs.
Dans ces cas-là, Stéphane, c'est pas normal d'avoir 14 stadiers lyonnais pour 600 supporters.
250.
Ça marche toujours.
200 supporters.
Stéphane. Ça a toujours marché en déplacement cette année. Regardez à Lille, regardez à Brøndby. Brøndby, 600 supporters à Copenhague. Voilà.
Stéphane, on a déjà fait ce débat. Je te remercie d'être venu parler dans l'after, Stéphane. Merci à toi. On t'accueille quand tu veux pour parler peut-être des résultats de Lyon un jour aussi, du jeu édicté par Peter Boss et de la fin de saison notamment de l'Olympique Lyonnais. Merci à toi, excellente soirée.
Bonne soirée à vous.
Merci d'être venu dans l'after. Voilà, messieurs, pour cet échange calme, je trouve. Intéressant également. On a beaucoup de réactions sur Direct Studio. Je pourrais pas les lire. Ça n'arrête pas depuis une demi-heure, hein, Oussem. Bien sûr, plein de questions qui se posent également chez les supporters.
Thibaut, sur l'histoire de les supporters.
Inclus ou pas
inclus. De la vie.
Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il y a le problème, et ça, c'est pour le coup un problème idéologique. C'est pour ça que je parlais d'idéologie ultra et pas des groupes ultra en tant que tels. Je parle d'idéologie ultra. La question est une question philosophique profonde et de savoir est-ce que t'es dedans ou t'es dehors, à savoir est-ce que t'es plutôt réformiste ou t'es plutôt insurrectionnel. Or, l'idéologie ultra, elle s'est construite dans la subversion. C'est-à-dire, on est contre l'autorité, on représente un contre-pouvoir, etc. Sauf que tu peux... C'est une logique qui est une logique nihiliste en réalité, parce que si tu passes ton temps à te battre contre l'autorité, tu peux pas réclamer ensuite que l'autorité te reconnaisse, te protège, t'écoute. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une logique insurrectionnelle. C'est comme on appelle des grèves insurrectionnelles. T'es là juste pour le simple presque délire nihiliste, voire anarchique. Mais si tu es dans l'autre option, qui est l'option réformiste, où là cette fois-ci tu choisis d'appartenir au mouvement, de le faire progresser, etc. Là, évidemment, t'es obligé d'être responsable. T'es obligé d'être solidaire avec la direction. Et ça, c'est un problème qui se passe dans les stades, mais qui se passe dans les entreprises aussi. Hein, les délégués CGT, comment on gère un délégué CGT. J'écoutais un témoignage encore d'un patron aujourd'hui sur un podcast qui est très intéressant sur l'idée que comment tu fais pour intégrer la contestation dans l'institution. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut que les ultras se posent ce problème-là sérieusement et qu'ils arrêtent d'envoyer promener tous ceux qui essayent de poser cette complexité-là, de poser cette question politique sur la table et d'arrêter juste de dire nous, on est subversif. Nous, on est une avant-garde. Nous, on n'est pas comme vous. Mais en même temps, on a besoin d'avoir du plexiglas plus élevé et que le salaire des saliers soit plus important.
Je pense que je trouve qu'on intellectualise trop. Qui se lève le matin, va au stade avec une cagoule? Rien que ça, c'est fou. Qui va dans un stade?
C'est précisément parce que tu intellectualises pas que tu te retrouves avec une cagoule.
Non, je suis désolé, on va dans un stade de foot pour supporter ou regarder un match de foot ou jouer au foot. Il n'y a pas plusieurs options. Tu vas pas pour.
Je suis d'accord.
Tu vas pas avec une cagoule, tu vois. Quel
vous
fou.
Êtes déjà allé voir un match de rugby dans un stade, messieurs?
Quel fou avec une cagoule.
Je ne vais pas prolonger les propos de la ministre des Sports,
non,
des Go Sports.
Je vais éviter de.
Mais oui, mais là-dessus. Non, mais elle a en partie raison là-dessus.
Arrête.
Moi, j'ai vu des.
Non, mais c'est clair. Tu vas voir un match de rugby. Il y a pas tout ça.
Mais c'est même pas forcément
lié aux rugby. Culturellement, c'est très différent. Certainement, il y a des racines ancestrales.
Voilà,
mais il y a rien.
Culturellement, c'est pas le même sport, c'est pas le même public. Il y a pas à comparer. Dans ces cas-là, parle d'une salle de handball ou d'une salle de basket. Ouais. Une salle de basket, il y a certains pays où les joueurs prennent des pièces sur la gueule et où c'est bouillantissime.
On va dans l'Est.
Moi, je compare souvent
donc,
ça.
Donc voilà, il y a des aspects culturels que tu vas dans le foot, que tu n'auras pas en rugby.
Moi, je compare souvent avec l'Espagne, parce que je connais bien l'exemple espagnol, et je me souviens par exemple d'un stade comme le stade du Betis. Qui est un stade incroyable où t'as des familles entières, des grands-parents, les parents, les enfants qui vont au stade avec des gens qui se marrent, où c'est vraiment des gens vraiment très marrants, les Béticos. C'est un public extraordinaire. Et ce qui tient les tribunes en réalité, c'est pas forcément la mixité sociale, etc., dont on
parle. Ce sont les anciens.
Ce sont les anciens. Ce sont le fait qu'il y ait des grands-parents dans les tribunes. Et si dans les tribunes il y a des grands-parents, les tribunes sont tenues.
Et tu peux avoir des ultras qui supportent avec ferveur et enthousiasme et qui se
comme
battent.
Comme le Bétis, hein,
et qui font des déplacements. Pourquoi tu vas avec une cagoule? On connaît tes objectifs.
Qui se battent pour ça.
Quand tu mets une cagoule, c'est que t'as un truc à te reprocher.